le défi du changement d'échelle. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, notre hôte, le président du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Bloch, qui nous rejoint. Merci. Alors, merci de nous accueillir. C'est votre maison depuis 8 mois. Vous êtes convaincu que science et technologie peuvent apporter des solutions concrètes. Et entre autres compétences et expertises, vous en avez de nombreuses. J'ai appris que vous étiez spécialiste du métabolisme musculaire et cérébral. Et vous serez d'accord avec moi, c'est vrai que ça aide quand on veut passer des intentions aux actes. Merci d'applaudir encore une fois, Gilles Bloch. Il est ouvert.
Bon, bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président. C'est un vrai plaisir de vous accueillir au Muséum national d'histoire naturelle. Ce muséum est une maison très ancienne. Ça a été rappelé par Éric Fourel. Presque 400 ans d'histoire. Ce bel amphithéâtre fin 18e en est un témoignage. Et dans la pénombre, vous ne voyez peut-être pas tous les noms des grands anciens qui sont au-dessus de nos têtes, mais certains d'entre eux ont été mes prédécesseurs, et certains d'entre eux, et parfois les deux à la fois, ont été des très très grands scientifiques. Alors le muséum, en quelques minutes, il se consacre depuis ses origines à l'étude du vivant, de la biodiversité, aussi à l'étude de l'inerte, ce qu'on appelle la géodiversité, à l'étude des sociétés humaines, de leurs relations avec leur environnement. Et bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le site, le jardin des plantes, la grande galerie de l'évolution, pour les plus experts, la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Mais le muséum, ça va bien au-delà. C'est aussi un très grand centre de recherche. Hein, dans les muséums au niveau mondial, on est vraiment le plus gros producteur de connaissances sur tous ces sujets que j'ai évoqués. Le muséum, il dépasse l'Île-de-France, avec des sites en région, dans l'Indre, avec le parc zoologique de la Haute-Touche. On a des implantations dans le sud. Je suis sûr que certains d'entre vous ne savent pas que le Musée de l'Homme est un site du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, donc tout ça, ça fait de nous un très très grand musée. On est, suivant les années, le troisième ou le quatrième musée de France, hein, à touche-touche avec le musée d'Orsay, derrière Versailles et le Louvre. Mais ce qui fait vraiment notre singularité, c'est qu'on est un musée qui est aussi en appui des politiques publiques sur la transition écologique, notamment, qui nous mobilise beaucoup en ce moment. Et dans cette transition, vraiment, on a un cœur d'expertise avec nos chercheurs, avec nos expositions, avec nos experts qui, de façon très organisée, rédigent des rapports pour le gouvernement. On est très mobilisé autour de la biodiversité au niveau mondial et aussi en France, au niveau de l'Hexagone, au niveau des territoires ultramarins, hein, qui représentent pratiquement 80% de la biodiversité de notre pays. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres toute la soirée, mais il faut être conscient qu'on est face encore à une terre largement inconnue. Hein. Ce qu'on dit souvent, c'est que dans le grand monde de la biodiversité, on connaît peut-être 15%, 20% des espèces. Tout le reste est encore à découvrir. Et il y a urgence à les découvrir, parce que ces espèces, elles sont en train de disparaître à une vitesse inouïe. Et on est vraiment dans une phase d'extinction massive. On parle de sixième extinction quand on repart aux extinctions précédentes qui sont documentées par les archives fossiles. Et donc cet effondrement de la biodiversité, là aussi je vais être très bref dans les chiffres, c'est documenté par des données produites par l'UICN, hein, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, sur les 160 000 espèces répertoriées et suivies, il y en a pratiquement 30% qui sont en situation de menace grave. Autre chiffre, si on se concentre un petit peu sur l'Europe, avec des groupes d'espèces qui ont été suivis dans le très long terme, parce que la biodiversité, ça ne s'étudie pas du jour au lendemain, ça s'étudie à une échelle de temps de la décennie, à des échelles de territoire assez larges. On a beaucoup de recul, par exemple, sur les oiseaux communs. Et là, sur un 28 pays, 20 000 sites échantillonnés, on est à 18% de déclin des oiseaux forestiers depuis les années 80, 57% de déclin dans les groupes d'oiseaux des milieux agricoles. Et ça, c'est probablement lié à un réel effondrement de ce qu'on appelle, nous, les naturalistes, les arthropodes, c'est-à-dire toutes les bêtes qui ont des pattes articulées, les insectes, les araignées. Là, on est à moins 78% dans les prairies depuis 2008. Donc, c'est vraiment massif. Ça répond à cinq drivers. Je vais être très rapide là-dessus. La destruction et l'artificialisation des milieux naturels, fragmentation, dégradation des sols, etc. Bien sûr, la surexploitation des ressources naturelles qui dépassent les capacités de régénération des écosystèmes. On pense bien sûr à tout ce qui est surpêche, par exemple, ou déforestation. Les pollutions, j'y reviendrai avec un ou deux exemples de tout type dans tous les milieux. Un nouveau driver qui est maintenant évident pour tous, c'est le changement climatique, hein, qui empêche certaines espèces de s'adapter parce que ça va trop vite. Et puis, le dernier driver qui est maintenant bien reconnu dans les communautés scientifiques, c'est l'apparition dans nos écosystèmes d'espèces dites exotiques qui envahissent les écosystèmes. Alors, ce n'est pas la faute des espèces, hein, c'est la faute de l'homme qui voyage, qui transporte et qui introduit ces espèces. Et donc là, on est devant un phénomène qui devient majeur. Et même en coût de dommages de ces invasions sur notre économie, on arrive à un niveau qui est juste derrière dans les catastrophes naturelles, les tempêtes, tout juste devant les tremblements de terre ou les inondations. Alors, je vais vous parler aussi de business en rapport avec cette biodiversité. Pourquoi est-ce que dans une soirée avec des entreprises, avec une grande entreprise de consulting, on va discuter de biodiversité? Alors, d'abord, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de rapports qui montrent qu'environ un cinquième des entreprises ont des risques opérationnels importants vis-à-vis de l'effondrement de certains écosystèmes. On pense bien sûr à des exemples caricaturaux, hein, tout ce qui est pêche et surexploitation des ressources marines, tout ce qui est sylviculture et déforestation. Je vais m'appesantir une demi-minute sur ce qui concerne les ressources agronomiques, où là, on sait qu'on a atteint probablement les limites du modèle productiviste avec maintenant un déclin massif des insectes pollinisateurs. En France, hein, 75% des espèces de plantes cultivées, elles dépendent de ces insectes. Et on sait aujourd'hui qu'on perd en efficacité économique à cause de la disparition de ces insectes qui devient absolument massive. Et donc, on doit aller au niveau de toute la chaîne agroalimentaire, qui est sûrement représentée ici, vers une transition, vers une agriculture qui utilise moins de pesticides, qui utilise moins de monoculture et qui utilise plus de diversité, notamment au niveau des... Un autre exemple, c'est tout ce qui est monde pharmaceutique. Moi, j'ai été médecin avant de m'intéresser à l'histoire naturelle. On sait aujourd'hui que l'innovation pharmaceutique repose en grande partie sur des substances naturelles et que l'effondrement auquel on assiste va mettre en danger cette innovation. Moi, je pense en particulier, parce que je m'y suis intéressé ces dernières années, à tout ce qui est antibiorésistance. Hein, c'est pratiquement 5000 décès par an en France. C'est plus que les accidents de la route. On est dans une course aux armements sur la découverte de nouvelles molécules. Si on n'a pas le réservoir de la biodiversité, on va perdre cette course de façon inévitable. Et puis, on peut prendre comme ça d'autres exemples plus précis dans votre chaîne de valeur de chacune de vos entreprises. On peut trouver très souvent un impact direct de cet appauvrissement de la biodiversité. Deuxième élément qui nous pousse à vous intéresser à la biodiversité, c'est bien évidemment tout ce qui est pression réglementaire, hein, ça a été évoqué. en particulier liées aux préservations de, aux politiques de préservation de la biodiversité, qui vont renchérir inéluctablement les coûts d'investissement, les coûts de production dans vos business. Et là, bon, on pense tout simplement construire une usine, aménager un grand parking, et ben, ça va coûter de plus en plus cher parce qu'il faut des mesures de compensation, etc. Je pense aussi à un exemple très transverse, c'est tout ce qui est utilisation des plastiques dans nos chaînes de valeur. Les plastiques, c'est un polluant massif. Hein. J'ai noté en lisant quelques articles, c'est 400 millions de tonnes de plastique, dont simplement 40% pour les emballages tous les ans. 20 tonnes terminent chaque minute dans l'océan, avec des impacts massifs sur tout un tas d'espèces qui sont en train de disparaître, notamment avec les microplastiques. Voilà pour ce deuxième élément, pression réglementaire. Troisième élément, je ne serai plus très long parce que je vois le timer, on m'a volé 3 minutes par rapport à ce qui était prévu au début. tout ce qui est risque réputationnel, non acceptabilité sociale justement de ces activités de certains business qui pèsent sur la biodiversité. Alors, par quel mécanisme ? Eh ben, à travers la destruction de ces biens communs que représentent les écosystèmes, à travers la réduction de leur contribution aussi du CO2 et avec bien évidemment en arrière-plan le changement climatique, ou encore avec un risque majeur de disruption du fonctionnement de nos sociétés avec des épidémies émergentes. Et donc cette pression réputationnelle de notre société, elle s'exerce via les clients de nos entreprises, via les investisseurs, via les recrutements des plus jeunes qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Et donc je vais reprendre mes 3 ou 4 exemples dans l'ordre inverse. Les épidémies, je regardais les données à grande échelle de temps. Hein. Au 19e siècle, on avait à peu près une émergence par an de nouveaux virus dangereux. Au début du 21e siècle, on est à 5 émergences par an, avec, on a vécu la crise Covid qui a carrément mis nos sociétés à l'arrêt pendant des mois, et avec les impacts que l'on sait, mais aussi un impact positif qui est que maintenant, je pense qu'on a tous percuté sur le fait que ce grignotage de l'habitat naturel des animaux, cette porosité qui s'est établie à certains endroits, c'est un danger majeur pour l'humanité. Deuxième élément, bon, je l'ai dit, c'est la contribution majeure des écosystèmes au stockage de CO2, forêts, océans, etc. Et donc, contribuer à leur préservation, voire à leur restauration, c'est aussi participer à la lutte contre le changement climatique qui a aussi des impacts sur vos sociétés, et donc c'est une mobilisation indispensable. Enfin, au-delà de cette valeur culturelle, je voulais souligner, parce que c'est mon background médical, cet impact positif de la nature, y compris de la nature urbaine, sur le bien-être, sur la santé humaine. Et aujourd'hui, il y a des publications extrêmement nombreuses de grandes cohortes épidémiologiques qui montrent que, des citadins dans un environnement urbain sans verdure et des citadins qui voient de la verdure, c'est 4% de mortalité en moins pour le groupe qui voit de la verdure. Je pense que c'est très significatif et que ça fait peser sur nos organisations de grosses responsabilités. Voilà, donc je crois que ces 3 classes de raisons qui s'imposent à vous, hein, les impacts directs sur vos ressources, les pressions réglementaires, les pressions réputationnelles et sociales, ça nous pousse tous à travailler ensemble avec les communautés scientifiques pour évoluer vers moins de pression de vos activités sur la biodiversité. Le muséum est un parmi d'autres établissements mobilisés sur le diagnostic à travers des productions de données sur la biodiversité à toutes les échelles géographiques sur des temps longs. On est aussi, avec d'autres, très engagés dans la sensibilisation, dans la formation, tournée aussi vers les entreprises, vers leur niveau de management, mais à tous les niveaux des entreprises. Et puis, on essaye de faire vivre un certain nombre de projets très opérationnels, comme le projet autour des certificats biodiversité qui vise à établir une méthodologie assez robuste de certification des actions réputées favorables à la biodiversité qui peuvent être portées par vos entreprises. Voilà, je suis presque à 15 minutes réellement, donc je m'arrête. Bonne soirée pour échanger sur ces futurs durables, sur ces futurs souhaitables. Pour vos entreprises, bien sûr, et leur business, mais aussi pour la biodiversité. Merci.
Merci à vous. Merci, Gilles Bloch. Merci pour cette keynote d'introduction. Et merci de votre...